ces convictions qui nous tiennent envers et contre tout.
Je me demande souvent d'où vient cette foi qui nous pousse régulièrement à continuer alors qu'objectivement, tout nous incite à renoncer. Pourquoi s'acharne-t-on contre vents et marées à devenir ce qui, tout au fond de nous, semble nous correspondre?
Parce que c'est dans notre ADN, j'en suis sûre. Après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin de chaque spectacle de Fugain à Lyon, tant je mourais d'envie d'être avec eux sur scène, après mes multiples activités en tant qu'animatrice dans les VVF, après m'être accrochée pendant des années à mon rêve, même une fois à l'atelier de Fugain, ça n'a pas été facile pour autant. À l'atelier, j'ai mis du temps à me sentir à l'aise, notamment vis-à-vis de la danse. Je dansais comme tout le monde, mais au début, j'avais du mal à me voir dans le miroir au milieu de ces grandes filles élancées. Je les regardais, elles. C'est là que Michel et Stéphanie m'ont dit, comme mes parents quelques années avant eux, « Assume-toi !» Grâce à eux, j'ai continué à oser. À l'époque, on faisait 4 à 5 heures de danse par jour, et je me débrouillais plutôt bien. Je le faisais à ma manière, mais je le faisais. Je ne dansais pas comme les autres, mais les autres ne dansaient pas comme moi non plus. Subtilité que Fugain m'a enseignée.
Cela t'a-t-il aidé?
C'est évident. Le premier pas, dans la danse ou dans la vie, consiste à t'accepter. Il y avait une super ambiance, et j'ai tout de suite trouvé des gens avec qui je me sentais bien, comme Gabi, qui venait d'une école de danse réputée. Nous sommes devenues très copines, et nous le sommes toujours. Je me suis intégrée sans problème. Il y avait cependant dans le groupe des filles à papa qui n'étaient pas là pour apprendre, mais pour l'image que ça leur renvoyait. Beaucoup d'entre elles ont bifurqué en route. Ce métier demande trop à ceux qui ne cherchent qu'un miroir flatteur. Il faut y mettre ses tripes. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que nous faisions tous. Comme je te l'ai dit, pour payer les factures, je faisais plein de petits boulots, notamment les week-ends au VVF de Menton. On partageait un appart à plusieurs. C'était des années de galère, mais je ne les regrette absolument pas. On était passionnés et heureux. Et toi, tu as connu aussi des années galères ?
Psychologique, oui, mais pas matériel. Pour ce qui est des tourments intérieurs et des doutes, je me demande d'ailleurs souvent si j'en suis sorti. J'ai commencé modestement sur les plateaux de cinéma anglo-saxons, mais c'est un milieu où, dans les studios, entre techniciens travaillant sur un même projet, l'entraide est réelle. J'étais alors vraiment jeune, et peut-être à cause de mon âge, mais plus certainement grâce à la gentillesse de ceux dont j'ai croisé la route, j'ai toujours bénéficié d'une grande bienveillance. Même au début, lorsque je parlais à peine anglais, même lorsque j'ai commis des erreurs. Entre mes séjours sur les plateaux à l'étranger, je loupais consciencieusement mes études au lycée tout en développant quand même de vrais liens avec mes camarades de classe. Parallèlement, je travaillais dans des supermarchés pour gagner de quoi payer mes billets d'avion. J'avais une telle envie que je n'éprouvais aucune fatigue. Toute mon énergie était consacrée à approcher ce milieu, générateur d'émotions. Pendant des années, j'ai vécu sans trop savoir comment, pied au plancher, rebondissant d'un projet à l'autre, sans savoir où je me réveillais le matin, finissant souvent les séjours vêtus des fringues que me prêtaient des potes qui en avaient emporté plus que moi. On dormait dans les recoins des bureaux d'études, on réfléchissait à ce qu'on allait manger au moment de passer à table. Ma spécialité, c'était la salade de M&M's à la vinaigrette. On était une sacrée bande, et nous ne vivions que pour créer des films comme, nous en étions convaincus, on n'en avait encore jamais vu. Le résultat n'a pas toujours été à la hauteur de nos ambitions, mais parfois, si. C'était une période de créativité intense, dont j'ai eu la chance d'être le témoin privilégié. Comme toi, j'ai eu des doutes sur la place qui pouvait être la mienne. Beaucoup. Mais l'écriture est venue naturellement. C'est une activité que l'on pratique seul, contrairement au spectacle qui nécessite des partenaires dès le départ. Les ennuis ont commencé quand j'ai voulu trouver un éditeur. 11 ans pour faire éditer mon premier roman. 11 ans. Entre ceux qui ne lisent pas et ceux qui sont gratuitement méchants parce qu'ils te font sentir que ta vie dépend d'eux, c'est assez bizarre. Dans le cinéma, côté technique, j'avais été habitué à voir des gens compétents juger un travail avec pour seul critère de savoir si le résultat pouvait fonctionner. Dans le métier du livre, j'ai tout à coup découvert un milieu où, trop souvent, la compétence et l'émotion n'entrent pas en ligne de compte. Tout ce qui importe, c'est d'avoir la meilleure place possible et de la garder en détruisant tout ce qui peut la remettre en cause et en profitant de tout ce qui peut la consolider. J'appelle ça la stratégie du cafard. Moralement, ce fut une période très sombre pour moi. Aucun repère tangible, des rapports humains faussés par des éléments que je ne comprenais pas et qui me choquent toujours autant. Donner le meilleur de moi-même ne servait à rien puisque personne ne regardait ce que je faisais. On se contente juste de jauger qui tu es et qui tu connais, à quoi tu peux servir. Des gens pour profiter, il y en a plein, mais des gens pour risquer et construire, c'est plus rare.
Les romans que tu proposais à l'époque et qu'on te jetait à la figure, sont-ils ceux qui ont fait ta réussite depuis ? Avec le recul, et maintenant que tu connais le succès, quel regard portes-tu sur ces rejets ?
Je n'en avais écrit que quelques-uns, et ils ont fini par trouver leur chemin, parfois chaotique, vers le public, qui en fait ce qu'ils jugent bon. Je ne suis pas capable d'évaluer ce que je fais. D'ailleurs, ce n'est pas à moi de le faire. La seule chose dont je pouvais être sûr et qui m'a servi de bouée face à chacun de mes doutes, c'était ma conviction et ma sincérité. J'ai toujours cru en ce que je faisais, et je continue. C'est le seul critère que je puisse objectivement mesurer. Ces jugements sur mon travail, parfois gratuitement cruels, m'ont enseigné deux choses essentielles. Ceux qui sont supposés te juger ne sont pas forcément doués pour le faire, et tant que tu y crois et qu'il reste une possibilité de réussir, même infime, ne renonce à rien et avance. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément plus simple. Je n'ai plus les mêmes problèmes, mais j'en ai d'autres. Je n'en veux à personne. Quel que soit le métier, tôt ou tard, tout le monde se heurte à des murs. Un jour ou l'autre, tout le monde a des cailloux dans sa chaussure. Mais je garde la mémoire des gens et des mécanismes. Et il n'est plus question pour moi de perdre du temps avec eux en les prenant au sérieux. Aucune rancœur, mais je retiens parfaitement les leçons que la vie m'enseigne.
Avec tous les gens que tu connaissais dans le cinéma, tu n'as pas été tenté de te servir de tes relations pour surmonter ces refus ?
Je ne le voulais pas. Par fierté, par intégrité, peut-être par orgueil au début. Je désirais m'en sortir par moi-même, uniquement grâce à mon travail, afin que, si ça marche un jour, cela veuille dire quelque chose pour de bonnes raisons. Je ne sais pas si mes quelques relations m'auraient servi à grand-chose tant l'édition est un milieu fermé. Heureusement, il existe de vrais éditeurs, curieux, engagés, courageux, pros. Mais ils ne sont pas légion. C'est un aspect compliqué du métier d'écrivain, particulièrement en France. Pour bien pratiquer ce métier et offrir le meilleur au public, dans tous les registres, on a besoin de gens qui nous disent ce qu'il faut améliorer, qui nous poussent à bosser, qui nous guident, et pour les plus doués d'entre eux, qui voient en nous ce que nous ne voyons pas nous-mêmes. Mais c'est rare. Alors souvent, on se retrouve face à des prétentieux qui n'y connaissent pas grand-chose, qui s'en foutent malgré leurs beaux discours, et qui, entre deux RTT ou subventions, publient de trop nombreux livres comme on sème autant de graines au vent, sans chercher à faire éclore les talents individuels, en ne raisonnant qu'en termes de part de marché globale. Ces gens-là ne font rien par philanthropie, ni même par goût. Ils n'agissent que par intérêt. Les auteurs ne sont que des pions sur leur échiquier, et ils n'hésitent pas à les sacrifier. Rien d'humain là-dedans. Avec une telle approche, cynique et opportuniste, ils sont certains de récolter les fruits des graines qui parviennent à pousser malgré leur incompétence, et celles qui ne poussent pas deviennent du terreau pour en semer de nouvelles. Bien sûr, comme partout, il y a des gens bien, mais il faut les trouver. Au-delà de tous les doutes que j'ai pu avoir sur mes aptitudes à écrire, c'est cela qui a été le plus dur. Être confronté à ceux qui détruisent ce qui les fait pourtant vivre.
Eh ben voilà, ça, c'est fait. Je pense que ceux dont tu parles se reconnaîtront. Le fait d'être aujourd'hui reconnu et d'avoir un public fidèle t'épargne-t-il d'avoir à subir cela ?
Cela te donne simplement le courage de ne plus l'accepter. C'est surtout le fait de ne me fier qu'aux gens que je sens bien qui me sauvent. Parce que pour le reste, grand ou petit, on vit tous la même chose. On retrouve sans doute cette règle dans le spectacle.
Complètement. Encore maintenant, bien que j'ai prouvé que je m'en sortais pas trop mal, ou alors cela voudrait dire que le public est crétin de me suivre depuis 35 ans, j'entends parfois des choses horribles sur moi, sur ma façon de jouer. Comme si j'avais usurpé mon succès. Toi, ce sont les éditeurs qui ne te lisaient pas. Moi, ce sont les gens du métier et certains critiques qui ne daignent même pas venir voir ce que je propose. Heureusement que le public est là.
Super! C'est tellement réconfortant de savoir qu'on n'est pas les seuls à en baver à cause de Pignouf.